France Inter.
Merci Salomé Martin, l'info revient à 13h. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes, Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et à la tête de la nouvelle revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui sur les attaques contre l'Europe de plus en plus violentes et directes de la part des États-Unis de Donald Trump. Et puis pour le débat, quelques jours après la sortie du livre de Nicolas Sarkozy et la main tendue au Rassemblement National, nous interrogerons avec notre invité l'Union des droites, historien du politique, spécialiste des droites, des contre-révolutions européennes du 19e à nos jours, enseignant à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po Paris. Il vient de diriger une nouvelle histoire de l'extrême droite aux éditions du Seuil, de quoi interroger le terme lui-même d'extrême droite, son histoire et son corpus de valeurs. L'historien Baptiste Roger Lacan sera avec nous tout à l'heure pour le débat, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Bonjour.
Comment va l'audacieuse Natacha ?
Mieux serait insupportable.
Et l'audace donc, le nom de votre nouvelle revue, toujours disponible, bien sûr en kiosque. Et on commence aux États-Unis en fin de semaine dernière. L'administration Trump rendait publique sa stratégie de sécurité nationale, 33 pages, qui ont choqué l'Europe. Le président américain a précisé sa pensée dans une interview accordée cette semaine aux médias Politico.
Je n'ai aucune vision pour l'Europe. Je veux une Europe forte. Mais je leur dis aux Européens, parce que je pense, vous savez, je suis censé être quelqu'un de très intelligent. J'ai des yeux, j'ai des oreilles, j'ai des connaissances, j'ai de vastes connaissances. Je vois ce qui se passe, je reçois des rapports que vous ne verrez jamais. Et je pense que ce qui arrive à l'Europe est horrible. Je pense que cela met en danger l'Europe telle que nous la connaissons. L'Europe pourrait devenir un endroit complètement différent. Et je pense que les Européens devraient faire quelque chose à ce sujet.
Alors les Européens devraient faire quelque chose, le danger est grand, l'Europe pourrait disparaître, on parle de risque civilisationnel dans la stratégie de sécurité nationale. Natacha, cette mise en garde de Trump, qui rappelle beaucoup en fait celle de Vance en février dernier à Munich, est-elle celle de trop ? Doit-on encore une fois courber les chines en espérant que ça se passe, que par exemple les démocrates reviennent au pouvoir ou que des républicains plus calmes remplacent Donald Trump, ou bien doit-on désormais faire preuve peut-être de maturité et acter de la rupture avec les États-Unis ?
Faire preuve d'indépendance ? De souveraineté ? Mon Dieu ! Non, au-delà de la plaisanterie.
Non, mais c'est pas une plaisanterie. Hein.
Je ne peux qu'espérer que ce soit le texte de trop, parce que de fait, ce n'est pas nouveau, et que ce texte ne bouleverse pas la stratégie des États-Unis. En fait, c'est une confirmation. C'est une confirmation de différents éléments. D'abord, le fait que Donald Trump confirme que les États-Unis assument leur statut de puissance, c'est-à-dire la focalisation sur deux éléments, la sécurité et l'influence. Et que l'influence se fait brutale. On peut pointer différents éléments, mais par exemple, le renforcement de la doctrine Monroe, c'est l'affirmation selon laquelle les États-Unis vont aller sécuriser, quoi qu'il en coûte, leurs étrangers proches. Et c'est un message.
Alors, le terme qu'on emploie plutôt pour l'ex-URSS.
Mais justement, et oui, c'est pour ça que j'emploie ce terme à dessein. C'est que c'est dangereux d'envoyer ce message-là, de dire une puissance a le droit de contrôler son étranger proche.
En l'occurrence, l'Amérique latine, oui.
Exactement. Deuxième point. Il y a quelque chose de très frappant dans la façon dont le spectre des menaces est élargi dans ce document. C'est-à-dire que c'est à la fois l'espionnage, les pratiques commerciales, le narcotrafic, la propagande, la subversion culturelle. Ça signifie qu'en fait, les États-Unis considèrent qu'il y a un continuum dans les menaces qui donc peuvent justifier une intervention, c'est ça qu'on comprend de façon subliminale, ce qui, là aussi, brouille les catégories de façon extrêmement dangereuse. J'en viens ensuite à la question européenne.
Oui.
C'est la confirmation, évidemment, de l'abandon total de l'Ukraine et de l'idée que le but est de rétablir une stabilité avec la Russie. Donc c'est, en fait, Donald Trump acte la fin du projet néoconservateur d'affaiblissement de la Russie, et l'Europe, de ce point de vue-là, est considérée comme un élément défaillant. Il y a une hypocrisie extraordinaire. Par exemple, parler de l'effet pervers qu'a eu la guerre, qui est d'accroître les dépendances européennes. Mmh. Dans la mesure où Donald Trump, justement, fait tout
se nourrit de ses dépendances
et fait tout pour les amplifier, il y a là un cynisme absolu. Mais ce qui me semble extrêmement important à retenir, c'est tout simplement le fait que nous sommes à la croisée des chemins. Ce que dit Donald Trump de la fragilité de l'Europe est vrai. Il le fait à sa manière,
oui.
Mais de fait, nous sommes en voie de désindustrialisation, nous sommes déstabilisés, et donc l'urgence pour l'Europe, c'est de définir, pour l'Europe, pour la France, pour chaque pays de l'Union européenne, c'est de définir les intérêts vitaux, la stratégie à moyen et long terme, et la coordination pour s'en sortir. C'est ça qui n'est pas fait depuis trop longtemps, et on ne peut qu'espérer que ce document va être enfin la prise de conscience qu'on attend.
Gilles, la fragilité que Trump semble regretter pour les Européens, est-ce qu'au fond, il ne la désire pas ?
Il la désire sans doute, et l'autre question, c'est est-ce qu'il a raison de la constater ?
Oui.
Je commence par la nature du
Et après, qu'est-ce qu'il compte en faire ? Mais,
je commence par la nature du document. C'est évidemment pas un texte sur l'Europe. L'Europe est même relativement peu présente dans ce texte. Sécurité et influence, a dit Natacha. J'ajouterais rien sur les biens communs, le climat, le multilatéralisme, tout sur le contrôle. Contrôle des ressources, contrôle des frontières. Mais c'est aussi un texte sur l'Europe, même si ça ne concerne que quelques pages. Et évidemment, nous en avons beaucoup parlé. C'est pas un texte de rupture avec l'Europe, c'est un texte de marginalisation et de vassalisation de l'Europe. C'est un texte dans lequel il y a un besoin d'Europe, mais d'une Europe qui n'est pas une alliée, mais qui est une Europe alignée. Et ce n'est pas un texte stratégique, ça s'appelle stratégie de sécurité nationale, c'est un texte de combat idéologique qui avait été déjà affirmé par, vous l'avez évoqué Thomas, par Jed Evans à Munich, mais cette fois-ci qui est théorisé par l'administration américaine. Et c'est même un texte de combat politique, et même de combat de politique intérieure à l'Europe, un texte d'ingérence interne avec un soutien aux patriotes. Après, quelle est la portée de ce document ? Il y a une lecture optimiste possible, vous l'avez même esquissé, ce ne serait qu'un moment. Un moment trumpien, et d'ailleurs, on a vu au même moment une opposition au Congrès des démocrates et des républicains à ce texte de stratégie. Et on peut se dire qu'à un moment ou à un autre, les démocrates reviendront au pouvoir. On peut se dire aussi, deuxième lecture optimiste, que tout ça va permettre un réveil européen, de déciler des yeux qui ont été fermés trop longtemps et que les Européens vont finir par comprendre qu'ils doivent d'abord compter sur eux-mêmes. Alors, il y a évidemment une petite contradiction dans ces deux lectures. Il y en a un qui dit qu'il faut accorder peu d'importance à ce texte et l'autre, au contraire, il faut lui accorder beaucoup d'importance. Le problème, c'est que je crois que l'une et l'autre sont trop optimistes et que ça met au jour nos silences. Encore une fois, on a, nous, Européens, pour l'essentiel, choisi de ne rien dire à ce texte. Il y a eu, je dis pour l'essentiel, il y a eu une petite déclaration du chancelier allemand, une petite déclaration du président du Conseil européen, une petite déclaration du Premier ministre polonais, mais pour l'essentiel, on a voulu calmer le jeu.
Et un silence français.
Bon, et enfin, ça met au jour, et c'est ça peut-être le plus inquiétant, nos contradictions. Natacha a dit, en souriant, peut-être, il faudra faire la preuve de notre souveraineté. Le problème, c'est que la souveraineté, ça ne se... Elle en est d'accord, j'en suis sûr, ça ne se proclame pas, ça se construit.
Exactement.
Et dans ce document, les Américains disent qu'une grande majorité d'Européens souhaitent la paix, en parlant de la Russie, mais sont empêchés par la subversion des processus démocratiques par les gouvernements. La réalité, c'est que, je crois, nos dirigeants européens disent soutenir l'Ukraine, mais que le soutien effectif à l'Ukraine, il y a eu les dernières données cette semaine qui ont été publiées de l'aide effective par l'Institut qui montrent qu'il y a plutôt un recul de cette aide, et que les peuples européens, on va publier dans début de semaine une enquête dans 4 pays européens, montrent que nous surestimons, et nous surestimons de beaucoup l'aide que nous accordons à l'Europe et nous souhaiterions
à l'Ukraine,
une aide supérieure.
À l'Ukraine, bon, ouais. C'est l'inverse que ce que dit Trump.
C'est exactement l'inverse de ce que dit Trump.
Natacha, un mot là-dessus ?
Un mot pour dire qu'il y a bien sûr la dimension d'aide à l'Ukraine dans la position des Européens, mais ça ne résume pas la politique européenne et la capacité de l'Europe à démontrer son indépendance. C'est un élément important, c'est un élément parmi d'autres, à ceci près que si on ne se focalise que là-dessus, on a tendance à oublier que même dans l'aide à l'Ukraine, la question de l'indépendance va se poser dans les capacités de production. Parce que ce que montre ce document, c'est que les États-Unis, eux, allient totalement la politique de puissance avec la politique économique et en particulier industrielle. C'est exactement ce que ne fait pas l'Europe. Et le problème, on en revient toujours là, ce sont les divisions entre Européens et donc l'incapacité de chaque pays et de l'Union de définir quels sont les éléments de souveraineté, donc quels sont les intérêts stratégiques vitaux et comment on coordonne des intérêts divergents. C'est ça dont nous souffrons. Et la dimension de politique intérieure me semble extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les États-Unis se nourrissent de notre fragilité, de la montée des partis contestataires, et que nous risquons d'être pris entre, d'un côté, des élites européennes qui penchent pour le discours néoconservateur démocrate qui vont espérer que les États-Unis redeviennent la puissance tutélaire, et de l'autre, des élites qui ont basculé du côté des extrêmes droites au sens large, et qui considèrent qu'il faut s'aligner sur Trump, ou en tout cas, ils ne le diront pas comme ça, mais c'est ça qui arrivera.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Inéligibilité à vie des hommes et des femmes politiques condamnés pour infraction financière. Et ça me semble tellement logique que je ne comprends pas qu'on s'y oppose. Le comptable qui est condamné pour avoir détourné de l'argent dans la société qui l'employait, il va peut-être trouver un autre travail. On va lui dire de pas être comptable parce qu'il sera en relation avec de l'argent. La personne qui commet des actes de violence, par exemple dans une colonie de vacances, il semble normal de lui interdire d'exercer une profession en lien avec des enfants. L'homme ou la femme politique qui utilise son mandat pour détourner de l'argent, ça me paraît normal de lui interdire d'être à nouveau élu.
Le juge Éric Alphen, grande figure de la lutte contre la corruption politique, en l'occurrence au micro de Brut en octobre dernier, une proposition choc, quelques-uns peut-être qualifieraient de bon sens, certes, mais la réalité est aussi inquiétante à lire le rapport que la Cour des comptes a publié cette semaine sur le niveau de corruption dans le pays. Ce rapport, vous l'avez lu. Gilles, que dit-il ?
D'abord, la spécificité de ce rapport, c'est pas seulement son objet qui traite de la corruption, c'est qui l'a commandé.
Oui.
C'est un rapport c'est une demande citoyenne, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme participative qui a été mise en place par la Cour des comptes. C'est une innovation de Pierre Moscovici depuis quelques années. Donc, c'est un rapport sur une demande citoyenne. Et ce n'est pas un hasard, la perception qu'ont les Français, dernière livraison du baromètre sur les fractures françaises, 66% des Français considèrent que la plupart des responsables politiques sont corrompus, une augmentation de 9 points en l'espace de 5 ans. Et quand la question est posée sous une forme un peu différente dans d'autres pays européens, on voit que les Français ont davantage ce sentiment, 25 points d'écart avec l'Allemagne.
Énorme.
8 points d'écart par rapport à l'Italie, alors que l'année dernière, ce sentiment était plus fort en Italie qu'en France. Donc, il y a ça, cette perception-là, et elle est nourrie, évidemment, par l'actualité. À la fois, la corruption du haut, on a vu quand même ces dernières années, entre les condamnations de François Fillon, les condamnations définitives à deux reprises de Nicolas Sarkozy, la condamnation en première instance de Marine Le Pen, puis la corruption du bas, cette espèce de bruit de fond, beaucoup lié au narcotrafic, oui. Où on voit que un certain nombre de professions sont touchées, tout ça a nourri ce sentiment. Que dit le rapport ? Je crois qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. D'abord, c'est une synthèse des données pour évaluer la réalité de ce phénomène. Hein, j'ai parlé de ça, de sa perception. Et en fait, c'est très difficile d'évaluer un phénomène qui, par nature, est un phénomène caché. Il y a un baromètre qui est celui de Transparency International, mais qui est beaucoup un baromètre de perception, mais qui lui-même indique la même chose, c'est-à-dire une place de la France qui n'est pas extraordinaire, au 24e rang, et en recul de 3 places par rapport à l'année dernière. Et les données publiques objectives dont on dispose sont parcellaires. C'est celle de l'Agence française anticorruption qui, par exemple, a répertorié l'ensemble des décisions de justice de première instance qui ont été rendues depuis une dizaine d'années et qui montrent une progression assez substantielle. Ce travail ayant l'intérêt de permettre de dessiner ce que sont les scénarios de corruption, qui est touché, quand, à quel moment, et c'est évidemment quelque chose de très important pour pouvoir lutter. La conclusion de la Cour des comptes, c'est que c'est mal évalué et qu'il faut mieux évaluer le coût et la réalité de la corruption. Et puis ça pose une question, c'est est-ce que cette augmentation, c'est parce que la corruption augmente ou parce qu'on la traque davantage. Et donc ça, c'est la deuxième conclusion, chose intéressante, c'est l'évaluation du dispositif qui a été mis en place. Et en réalité, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir à quel point c'est un dispositif qui est récent. Toutes les institutions qui sont mises en place en France pour lutter contre la corruption ont quasiment moins de 10 ans. C'est vrai de la Haute Autorité de la Transparence sur la Vie Publique, du Parquet National Financier, de l'Agence française anticorruption que j'ai évoquée. Il y aura à la rentrée un parquet national pour lutter contre la criminalité organisée. Tout ça, ce sont des institutions qui ont moins de 10 ans et dont la Cour des comptes dit c'est un dispositif complet, peut-être trop complexe. Ça, c'est un des sujets qu'il faudra traiter. Et je termine d'un mot. On a beaucoup progressé en France dans la lutte contre la corruption à un moment où ce n'est pas nécessairement le cas dans le monde. On parlait des États-Unis tout à l'heure. Les dispositifs de lutte contre la corruption sont plutôt démantelés aux États-Unis. Donc on a des progrès à faire, mais on a déjà fait des progrès.
Ce que vous me dites me fait penser, il y a des pages magnifiques de Tolstoï qui racontent à quel point un objet existe parce qu'on le regarde. C'est un peu ça, peut-être aussi avec la corruption, d'où la grande difficulté de mesurer l'effet. La réalité du phénomène, parce qu'on le perçoit aujourd'hui peut-être davantage.
Moi, je pensais au syndrome de la voiture jaune. Quand vous achetez une voiture jaune, vous ne voyez plus que des voitures jaunes. Vous ne savez pas si c'est parce que c'est une mode ou c'est parce que vous avez une voiture jaune, vous ne voyez plus qu'elle. C'est moins joli que Tolstoï.
Natacha, la voiture, oui. De quelle couleur?
Premier point, en effet, la lutte contre la corruption a énormément progressé en France et il faut tout de même avoir conscience que si notre pays est à ce point-là rempli de ronds-points formidables et de zones commerciales avec des grandes surfaces, c'est peut-être pour une raison et que on peut se réjouir donc de la lutte contre la corruption. Pour autant, j'ai été un peu gênée face à ce rapport pour différentes raisons. Oui, ce rapport diagnostique l'empilement des structures et le fait que tout cela n'est pas très très clair. Mais derrière ça, il y a peut-être le manque de distinction entre les différents types de corruption et les différentes perceptions qu'on peut en avoir. C'est-à-dire que ce qui surgit aujourd'hui est le risque d'une corruption qui est une véritable gangrène, qui est la corruption par des narcotrafics, qui petit à petit ferait basculer le pays dans une forme très dangereuse de démantèlement de l'État républicain. Ce n'est pas à mettre sur le même plan que la corruption politico-financière telle qu'elle est diagnostiquée par le juge Alphen quand il prend cette position sur le rôle des politiques. Et là, il me semble que il faut pas mettre tout sur le même plan. C'est-à-dire que s'il y a une telle perception de la part des Français, l'idée que leur politique serait corrompue, en fait, c'est parce qu'il y a, je pense, d'abord une plus grande exigence qui est tout à fait nécessaire, mais qui se nourrit aussi de l'impression de l'impuissance des politiques.
D'une suspicion généralisée, oui.
Voilà, c'est parce que les politiques semblent impuissants qu'on vient être particulièrement exigeant sur leur probité. Mais c'est surtout, je crois, qu'il y a une forme de confusion entre la corruption telle qu'elle est caractérisée légalement et la porosité entre le monde politique et les grands lobbies et les pressions de différents grands intérêts financiers. Et que c'est ça, en fait, qui rend fou de rage certains de nos concitoyens, c'est l'impression d'avoir en fait une confusion entre les intérêts publics et les intérêts privés.
Une corruption d'atmosphère.
Voilà, une corruption d'atmosphère. Or, le problème, premier point, c'est que la France a souffert de l'absence de traitement de cette corruption. C'est-à-dire que le démantèlement d'Alstom, il vient du fait que les États-Unis ont décidé d'appliquer l'extraterritorialité de leurs droits sur une affaire de supposée corruption qui n'avait pas eu lieu sur leur territoire, mais parce qu'ils considéraient que la France ne s'en était pas saisie. Donc la France
c'est
a
comme
intérêt...
ça d'ailleurs qu'a été créée l'Agence française anticorruption
bien sûr.
À la suite
Exactement.
De cette affaire. Pour mettre en place des dispositifs dans les entreprises privées de prévention.
Voilà. Et de ce point de vue-là, nous avons progressé. En revanche, le danger, c'est que cette obsession sur ces questions-là, qui ne distingue pas suffisamment les problèmes, empêche la commande publique d'être utilisée de façon efficace pour préserver notre industrie. C'est-à-dire que les acteurs publics sont tellement tétanisés à l'idée d'être accusés de corruption parce qu'ils favoriseraient des entreprises française dans les appels d'offres, que nous avons de ce point de vue-là des pudeurs de gazelle.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Votants 574, exprimés 481, majorité 241 pour 247 contre 234. L'Assemblée nationale a adopté.
Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui annonce mardi soir les résultats du vote du budget de la Sécu au terme de longues semaines de discussions, de négociations, de compromis, voire de compromissions, un vote ultra serré. Est-ce que Gilles, on a assisté cette semaine à une clarification idéologique au sein du Parlement ?
Là, vous allez un peu vite en besogne.
Je suis gourmand.
Ah, vous êtes très gourmand. L'Assemblée nationale a adopté, a dit Yaël Braun-Pivet. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le pays. Je ne vais pas faire la synthèse de l'évolution entre le projet de loi initial et le projet de loi final. Ça a été fait déjà cette semaine. Mais je voudrais essayer d'en faire une lecture, non pas idéologique, mais une lecture démocratique. Il y a quelque chose de positif, c'est que le Parlement retrouve le rôle qui, historiquement, a été le sien. Il y a quelque chose de moins positif, et je vais défendre une thèse qui est peut-être une thèse iconoclaste. Je pense que contrairement à ce que l'on a beaucoup entendu depuis mardi, ce n'est pas ou pas vraiment un compromis qui a été trouvé. Pourquoi ? Je pense qu'on doit distinguer ce qu'est une coalition électorale, un peu à l'allemande, dans laquelle il y a un contrat global, deux législatures et une participation au gouvernement. On n'est évidemment pas là-dedans. Il y a ensuite ce que serait un compromis budgétaire. Un compromis budgétaire, c'est que on se met d'accord sur un cadrage macroéconomique, c'est-à-dire on donne une cible de déficit, on donne un équilibre entre les recettes et les dépenses, puis dans ce cadrage, il y a des concessions réciproques qui amènent à un accord. Là, on n'a pas eu ça. On a eu une sorte de flibuste politique où chacun des groupes qui a accepté de s'engager dans la discussion, donc ni le PC, ni LFI, ni RN, ni l'UDR, chacun des groupes qui a accepté de s'engager dans la discussion a essayé d'arracher des victoires symboliques jusqu'à la dernière minute qui permettait une abstention ou un vote positif. Ce faisant, aucun compromis budgétaire global n'a vraiment été passé. Et le déficit n'est pas le cadre que l'on se fixe collectivement, mais c'est le solde des victoires des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à la fin, avec un déficit de la sécurité sociale non seulement supérieur de 7 milliards d'euros au projet de loi initial, mais même supérieur de 1 milliard d'euros à ce qu'il était l'année dernière. Avec deux conséquences fâcheuses, et je termine par là. La première, c'est que l'ajustement budgétaire va davantage encore reposer sur le budget de l'État, alors que depuis des années, il repose déjà principalement sur le budget de l'État. Et deuxièmement, c'est que cet ajustement budgétaire va, dans les jours et les semaines qui viennent, compliquer davantage encore l'adoption qui était déjà hypothétique du projet de loi de finances.
Natacha Gilles est iconoclaste. Êtes-vous iconodoule ? Avez-vous vu quelque chose de positif dans la semaine qui vient de se passer ?
Non, parce que en fait, j'ai à peu près la même lecture que Gilles sur la manière dont ça s'est passé. Voilà, je ne vais pas, je vais pas me lancer et je ne vais pas répéter ce qu'a dit Gilles. Je pense que son analyse est absolument parfaite. J'ajouterai donc deux points. La remarque de Bernard Cazeneuve, qui me semble résumer assez bien la situation. En deux mois, nous sommes passés d'une situation où le Premier ministre nous disait qu'il faut un budget pour faire des économies à un contexte où il nous explique qu'il faut des dépenses pour avoir un budget. Et en effet, ça aboutit à cette situation-là. Et simplement, puisque on va passer à l'invité, avant cela, je voudrais juste rappeler que pendant que cette supposée victoire a été acquise, eh bien, 165 sites industriels sont menacés depuis le mois de septembre, c'est-à-dire que la situation est catastrophique et que la fermeture de Brandt est le symbole de cela, c'est-à-dire le dernier fabricant français de gros électroménagers. Sachant que une grande part de l'électroménager français maintenant français qui est acheté en France vient de Turquie par exemple puisqu'il y a un traité de libre-échange avec la Turquie, que la banque publique d'investissement.
Je comprends Natacha, mais là c'était le budget de la sécurité sociale, c'est pas
non,
le budget.
Non, mais derrière, Gilles a tout à fait raison d'insister. Ça rend la question du budget plus compliquée. Et derrière.
Et les marges, oui.
Pendant ce temps-là, il est en train de se passer quelque chose de tragique.
Un mot, Gilles ?
Oui, un mot. Vous me demandez quelle était la lecture idéologique, je crois.
Oui,
ça,
quand même.
Honnêtement, c'est... non, ça, j'y arriverai pas. En revanche, il y a une lecture politique.
Bah, pardon, pourquoi vous dites vous n'y arriverez pas ? Moi, j'ai vu cette semaine, par exemple, la rupture peut-être définitive à gauche.
Alors, ça, c'est pas nécessairement. Oui, c'est pas.
Bah, c'est un peu idéologique, quand même.
Disons, en tout cas, c'est une lecture politique. Alors, je crois qu'il y a une lecture politique, en revanche, qui peut être faite. Je crois qu'il y a deux vainqueurs. Sébastien Lecornu, qui a réussi quand même ce que l'on pensait impossible, c'est-à-dire qu'il y ait un vote positif pour le budget de la sécurité sociale. Il avait une réputation d'habileté, il en a administré la preuve. Pour l'avenir, évidemment, c'est insuffisant, ça signe un tempérament, ça ne dessine pas un projet.
Pour résumer, on est ravis pour lui, mais bon,
Olivier pour la France. Olivier Faure a obtenu, de manière très habile et très tenace et très continue, une série de victoires. Il a assumé une distance et peut-être même une rupture avec la France insoumise. Il a maintenu, ce qui n'est jamais évident, l'unité des socialistes. Ça ne construit pas non plus un destin, mais c'est quand même il a marqué un point. Et puis, je termine par là, trois surprises. Le retour de Laurent Wauquiez dans le débat, mais Laurent Wauquiez était laminé il y a
Gilles,
peu de temps.
Gilles, je trouve qu'on s'emballe un peu.
Pourquoi vous dites le retour de Laurent Wauquiez ? Qu'a-t-il obtenu ?
Il a retrouvé une place dans le débat alors qu'il n'en avait plus aucune. Alors sans aucune, pour le coup, pas la moindre différence idéologique avec Bruno Retailleau qui prenait un vote contre, mais simplement un débat de manœuvre personnelle. L'abstention des écologistes, là qui pour le coup est vraiment quelque chose de nouveau, parce que jusqu'à présent, les écologistes tombaient systématiquement du côté où ils penchaient, c'est-à-dire du côté de la France insoumise. Je ne sais pas si c'est un moment ou un tournant, mais en tout cas, c'est arrivé. Et enfin, non pas la rupture d'Édouard Philippe avec la Macronie, parce que celle-là, elle était déjà en route, et je pense qu'elle va plutôt s'accentuer, mais que c'est une rupture contrariée, parce qu'il y a eu des dissidences au sein de son propre groupe qui ont permis, qui ont contribué à ce que ce texte passe. Donc la poutre continue de travailler pour reprendre sa formule.
La poutre travaille, en revanche, il y a un bloc qui ne bouge pas, qui reste fidèle à sa ligne, c'est l'extrême droite, c'est le Rassemblement National. D'ailleurs, faut-il l'appeler l'extrême droite ? On va se poser la question avec notre invité. Place au débat du Grand Face-à-Face.
Le Grand Face-à-Face, le débat.
Bonjour Baptiste Roger-Lacan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste des droites, des contre-révolutions européennes du 19e au 20e siècle, jusqu'à même nos jours, jusqu'au 21e siècle. Vous enseignez à Sciences Po, vous venez de publier cette somme que vous avez dirigée, Nouvelle histoire de l'extrême droite aux éditions du Seuil, un livre qui sort, je crois, à point nommé, tant l'extrême droite semble, à en croire les sondages, aux portes du pouvoir. C'est en tout cas le pari qu'a fait cette semaine Nicolas Sarkozy dans son journal d'un prisonnier chez Fayard. Il défend désormais l'ancien président publiquement, une union des droites. Henri Guénaud, son ancienne plume, grand défenseur de l'ancien président, était l'invité de C'est ce soir cette semaine sur France 5.
Les républicains, si les mots ont un sens, ça veut dire qu'on fait front contre ceux qui mettent en danger la République, la démocratie, le drapeau de la liberté. Ça veut dire que, enfin, ça pourrait être le front antifasciste. Alors, ça avait un sens dans les années 30, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Ça a pu avoir un sens longtemps contre le Front National, qui était encore habité par les gens qui l'avaient fondé et qui avaient des racines très profondes dans la Seconde Guerre mondiale, dans la collaboration, etc. Bon, mais c'est fini.
Voilà de quoi déjà nourrir l'historien de l'extrême droite que vous êtes, Baptiste Roger Lacan. Mais arrêtons-nous sur ce tabou qu'on a longtemps évoqué, à droite, l'union avec la droite de la droite, avec l'extrême droite, tabou qui semble aujourd'hui voler de plus en plus en éclats, tant par les propos donc de Nicolas Sarkozy, relayés d'une certaine manière par Henri Guénaud ici, dans son livre, hein, de Nicolas Sarkozy, mais qui s'impose aussi avec, on évoquait Laurent Wauquiez, d'une primaire qui irait de lui-même jusqu'à Sarah Knafo, donc une très large primaire qui n'exclurait personne à droite. Est-ce que, historiquement, l'union des droites est réellement un tabou ?
Alors, non, en fait, le tabou de l'union des forces de droite et d'extrême droite, c'est une singularité française et allemande, en fait, hein, postérieure à la Seconde Guerre mondiale. Le cas italien est un peu différent, je ne vais pas rentrer dans les détails, ouais. Mais qui tient, dans le cas allemand, à leur histoire, et dans le cas français, à la particularité de ce mouvement qui a été le gaulliste, qui est devenu hégémonique, ou quasi-hégémonique à droite, au cœur du second XXe siècle. Et qui, pour des raisons historiques évidentes, Vichy puis la guerre d'Algérie, s'est retrouvé en tant qu'antagoniste principal de l'extrême droite. Donc en fait, l'extrême droite française, quand elle s'est reconstituée après la Seconde Guerre mondiale et puis de nouveau après la guerre d'Algérie, elle s'est constituée dans la haine du gaullisme. De l'autre côté, du côté des gaullistes, c'était des hommes qui s'étaient combattus pour la première génération. Et donc, il y a eu cette idée que ces deux blocs étaient irréconciliables. Cette rupture, elle a été renforcée dans les années 80, à un moment où s'est posé la question au sein du RPR et de l'UDF d'ailleurs, de forger des alliances avec le FN naissant dans les années 80, au moment où Jean-Pierre Sirbois avait repris le parti et cherchait à renforcer la stratégie électoraliste. Et ce rapprochement, qui n'est jamais allé très loin, mais ces tentatives de rapprochement ont complètement échoué à partir des déclarations de Jean-Marie Le Pen sur le point de détail, qui ont révélé au grand jour la culture profonde du parti qui, à ce moment-là, était marquée par le négationnisme, la nostalgie vichiste, etc. Donc, il y a eu un petit demi-siècle pendant lequel c'était absolument impossible de franchir ce Rubicon à droite. Quand on regarde sous la Troisième République, la norme, c'est beaucoup plus une forme de porosité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des alliances tout le temps. D'abord, parce que l'extrême droite est très fragmentée, elle est relativement peu présente au Parlement sous la Troisième République. Mais il y a des circulations intellectuelles qui sont très fortes. À partir de la fin du XIXe siècle, Charles Maurras exerce un magistère intellectuel sur l'extrême droite, mais aussi sur les droites. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement lu par des royalistes qui veulent abattre la République, il est aussi lu et commenté dans des cercles conservateurs bontins, où il est présenté comme une figure d'intellectuel immense. Et peut-être encore plus que Maurras, il y a un autre intellectuel de l'Action française qui, lui, est vraiment un point de convergence entre extrême droite et force conservatrice, c'est Jacques Bainville. Et d'ailleurs, curieusement, il joue toujours ce rôle aujourd'hui, c'est-à-dire que Jacques Bainville, c'est une référence qui est toujours citée avec gourmandise par des DLR. Je suis sûr que même à Horizon, on trouverait des gens qui diraient que c'est absolument formidable, jusqu'à Éric Zemmour. Et donc là, ce qui se passe depuis une quinzaine d'années, c'est en fait, je pense, un retour quand même à un état de porosité croissant, c'est-à-dire que finalement, la ligne de l'UMP, à mesure que la coalition tentée en 2002 a commencé à se fragiliser sous l'effet des défaites électorales à partir de la fin des années 2000, en gros, on est passé d'un nini de plus en plus hostile à la gauche, aux déclarations de Bruno Retailleau il y a 6 mois, appelant à voter pour un candidat UDR. Ouais. Contre un candidat socialiste.
UDR, c'est les alliés,
c'est du Rassemblement National, qui sont des anciens, en fait, qui sont des LR
Félon. Oui, ouais.
Et puis, maintenant, on assume carrément l'idée d'une union avec le Rassemblement National.
C'est passionnant, hein, ce retour, cette manière de gommer, en fait, une partie de l'histoire. Et d'ailleurs, quand je vois Jordan Bardella à Londres, cette semaine, rendant hommage au général de Gaulle, on sent effectivement qu'on est dans un moment de purge d'une certaine histoire. Vous avez employé, moi aussi, l'expression « extrême droite » à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez tout simplement tenter de la définir? Pas facile, mais je vous demande de définir les termes du sujet, professeur.
Alors c'est un peu tout l'enjeu de l'introduction du livre, c'est quelque chose qui revient dans quasiment tous les chapitres. Il y a un problème fondamental avec la notion d'extrême droite, enfin une difficulté fondamentale plutôt, c'est que c'est à la fois une catégorie historique, politique, qu'on utilise du côté des sciences humaines, et dans le champ politique, c'est un terme stigmatisant. C'est-à-dire que personne à l'extrême droite va sortir dans la rue en disant coucou, je suis d'extrême droite.
Ça n'est jamais arrivé.
Ça n'est jamais arrivé.
Même Jean-Marie Le Pen,
non,
jamais
Jean-Marie
dit lui-même
Le Pen a toujours dit qu'il était de droite ou de droite nationale, a toujours revendiqué, ce qui a toujours d'ailleurs été une ligne, ça c'est un point constant à l'extrême droite, c'est de revendiquer qu'ils sont en réalité la seule vraie droite. C'est-à-dire que toutes les autres forces de droite, les forces de la droite de gouvernement, en transigeant avec la démocratie libérale, se compromettrait et en réalité donnerait des armes à la gauche pour mieux les battre. Et donc, ce seraient eux les défenseurs d'un héritage d'une vraie droite. Donc, cette idée qu'il serait la vraie droite, c'est quelque chose qu'on retrouve en permanence et d'ailleurs qui va jusqu'au procès, puisque Jean-Marie Le Pen, comme Marine Le Pen, ont régulièrement attaqué des gens qui utilisaient ce terme d'extrême droite contre eux. Une fois qu'on a dit ça, il est quand même possible de dessiner quelque chose, d'essayer d'un peu de saisir ce qu'est l'extrême droite. C'est une tradition politique ancienne qui a des racines qui remontent à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, dans la contre-révolution la plus intransigeante, donc les forces qui se sont opposées à la modernité politique portée par la Révolution, qui, tout au long du XIXe siècle, se sont opposées à la fois au libéralisme et au socialisme, présentés comme les deux visages de cette modernité révolutionnaire.
Et décadente.
Et décadente, et qui, à la fin du XIXe siècle, vont se recomposer autour d'un programme qui est autoritaire, qui défend une vision hiérarchique de la société fondée sur un ordre présenté comme traditionnel et ou naturel, avec la revendication d'inégalités, qu'elles soient sociales, culturelles, biologiques, raciales, ethniques, ça peut être une ou plusieurs de tout ça. Un rapport, une hostilité profonde au libéralisme politique et économique, et une vision défensive et exclusive de la communauté, généralement nationale.
D'un peuple.
D'un peuple qui passe par le rejet de groupes identifiés comme étant des parasites qui viennent menacer la cohésion du groupe central. Et donc, dans l'histoire, ces groupes parasites, ça a été les juifs, les francs-maçons, les protestants, on l'oublie, mais ça a été un des groupes qui a été très ciblé. Et aujourd'hui, les Français issus de l'immigration.
Justement, tiens, avant de donner la parole à Gilles, mais vous dites aujourd'hui, donc selon vous, aujourd'hui, l'expression extrême droite est encore adaptée pour évoquer et qualifier le Rassemblement National ?
Pour moi, absolument. Il y a une différence majeure, c'est-à-dire que, mais qui est quelque chose qui se joue à l'échelle européenne, je laisse vraiment les Américains de côté, parce que la détestation de la démocratie libérale et la volonté d'abattre le régime, elle est beaucoup plus nette à l'heure actuelle dans l'extrême droite MAGA. Quand on regarde en Europe, il y a depuis une trentaine d'années une bascule des partis d'extrême droite européens qui ont cessé de mettre en avant comme un item programmatique le fait de détruire la démocratie, de considérer qu'en fait le premier ordre du jour, c'est d'abattre le régime. Et donc ils ont engagé une stratégie électorale, une stratégie de conquête du pouvoir et en apparence de respect des institutions. En réalité, quand on regarde les victoires de l'extrême droite en Europe aujourd'hui, il n'y a pas un parti d'extrême droite qui est arrivé au pouvoir en Europe dans les 25 dernières années qui n'a pas systématiquement éprouvé les résistances des démocraties libérales, en attaquant en général deux choses, l'indépendance de la justice et l'autonomie des médias, et notamment des médias publics.
Donc le pouvoir, les contre-pouvoirs, l'état de droit.
Exactement.
Gilles.
D'abord, une remarque pour prolonger ce que disait Baptiste Roger-Lacan à l'instant sur le qualificatif lui-même. Au sommet, chez les dirigeants de l'extrême droite, il y a eu des moments. C'est-à-dire que, vous disiez, Jean-Marie Le Pen disait « on est la seule vraie droite », et le même ou après récuse le clivage gauche-droite comme clivage central, et se disant « ni de gauche ni de droite », c'était un des slogans du Front National, on n'est ni à gauche ni à droite, le au peuple. Bon. Et à la base, quand on interroge les Français pour savoir comment ils qualifient le Rassemblement National, on voit qu'il continue à y avoir une majorité, qui décroît, mais qu'une majorité nette pour qualifier le Rassemblement National de parti d'extrême droite, y compris les électeurs du Rassemblement National, la moitié d'entre eux disent c'est un parti d'extrême droite, et quand on demande aux Français de positionner Marine Le Pen sur une échelle gauche-droite, 0, 13 à gauche, 10, 13 à droite, le positionnement moyen des Français, c'est 9 sur 10, donc c'est à l'extrême droite. Après, reste à savoir si c'est un élément descriptif ou un élément de stigmate politique, mais en tout cas, ça continue de fonctionner. La question que je voudrais vous poser concerne le sujet de l'identité. Il y a un chapitre dans votre livre sur un des courants de l'extrême droite, qui est le courant identitaire,
que, je cite, page 267, vous dites, ça désigne un courant qui rejette la conception contractuelle de la citoyenneté au profit d'une vision organique de la communauté. Ma question est, quel est le lien entre ce courant de l'extrême droite et ce qu'est encore le Rassemblement national aujourd'hui, et notamment tout le projet d'introduction dans la Constitution de la préférence nationale et de la suppression du droit du sol? Est-ce que ça constitue un lien entre ces deux courants?
Baptiste Roger-Lacan, après cette longue question de Gilles.
Alors, c'est un excellent chapitre qui a été signé par Marion Jacquet-Vaillant. Il y a deux choses dans votre question. La première, c'est que les identitaires, en un sens, c'est l'expression, à mon sens, presque la plus pure d'une tendance centrale de l'extrême droite depuis la Révolution française. C'est-à-dire que s'il fallait définir, je pense, en fait, fondamentalement, ce qui réunit tous les partis de l'extrême droite, c'est que c'est des partis, des mouvements qui détestent la mobilité. Ils détestent l'idée que la Révolution française aurait activé le temps. On serait sorti d'une France de quelque chose d'immémorial, d'une monarchie sortie de la nuit des temps, qui stabilisait un ordre social lui-même immémorial, etc.
Statique.
Exactement, statique, pour rentrer dans du mouvement. C'est la première chose. Ils détestent la mobilité sociale, l'idée qu'on puisse s'arracher à sa condition. On est de quelque part, on est souvent l'office de quelqu'un, d'un père en général, c'est quand même une vision assez traditionnelle des rapports de genre. Et il n'y a pas vraiment cette idée qu'on puisse échapper à ce à quoi on est né. D'ailleurs, on ne peut pas non plus échapper à sa religion de naissance, etc. Et puis, et ça a été particulièrement thématisé par les identitaires, par la nouvelle droite, puis par les identitaires, on ne peut pas échapper à son ethnie, sa race, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une vision qui est, qu'on appelle ethno-différentialiste, c'est-à-dire qu'ils considèrent que chaque communauté est associée à un territoire et à une culture. Et donc, pour les identitaires, il est absolument absurde d'imaginer que ne serait-ce que 0,001% de gens issus d'Afrique subsaharienne puissent rester sur le territoire français. Pour eux, c'est, dans les deux sens, vecteur de malheur. C'est-à-dire que ces gens, cette petite minorité serait très malheureuse en France, qu'elle serait pas sur son territoire de naissance. Mmh. Et pour les Français, ce serait vecteur de disruption et donc de désintégration de l'espace, d'ailleurs pas français, mais européen, puisque eux se perçoivent plutôt dans une perspective continentale. Les identitaires ont... alors, des liens avec le RN qui sont de deux ordres. D'un côté, il y a toujours eu des ponts, des relations interpersonnelles entre des figures du mouvement identitaire et des figures du Rassemblement National. Jusqu'à il y a quelques années, la principale figure qui assumait ça, c'était Nicolas Bay, qui aujourd'hui est autour de Reconquête. Aujourd'hui, on sait qu'autour de Jordan Bardella, il y a des points de contact avec les identitaires. La deuxième chose, c'est que les identitaires sont absolument maximalistes dans leur discours, mais au moment de chaque campagne électorale, et c'est ce que montre très bien Marion Jacquet-Vaillant, comme d'ailleurs tout le reste de l'extrême droite mouvementiste, en gros le principe c'est que, entre les élections présidentielles, c'est haro sur le RN, et c'est globalement haro sur l'extrême droite partisane, qui serait trop molle, trop prête à faire des compromis, incapable de défendre les idées, les vraies idées qu'il faudrait défendre. Et puis, en période électorale, en général, ils font leur marché. Donc, la plupart du temps, ils soutiennent le RN. En 2022, il y en a beaucoup qui sont rabattus derrière Éric Zemmour. Mais, dans les deux cas, ils sont conscients que une grande partie de leur programme ne sera pas appliquée. Donc, c'est plutôt l'idée de pousser le plus possible leurs idées. Donc, même dans le cas de Zemmour, qui, en 2022, gardait encore une petite porte ouverte à une idée d'assimilation, en gros, si juif ou musulman, on acceptait de pratiquer sa religion dans le secret le plus total et sans jamais montrer quoi que ce soit qui romprait avec une identité française fantasmée, il imaginait qu'il était possible encore de voir des immigrés.
Une petite fenêtre ouverte, sur une grande fenêtre, celle d'Overton, c'est beaucoup, beaucoup cité, et je crois que c'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire là, avancer pour faire émerger des idées dans une guerre culturelle, vous n'avez pas évoqué le terme, mais c'est ce qui semble affleurer.
Qui est quelque chose qui est en fait présent à l'extrême droite, avant même d'ailleurs que Gramsci l'ait thématisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand retour vers Gramsci, toute cette nouvelle extrême droite, la nouvelle droite se gargarise
tout le temps.
Gramsci. En réalité, quand on regarde les mouvements contre-révolutionnaires du XIXe siècle, les catholiques intransigeants, l'Action française, ce sont des mouvements qui thématisent beaucoup plus l'offensive culturelle, notamment le travail par la presse de masse, la publication d'ouvrages, bref, une capacité à occuper l'espace. Beaucoup plus d'ailleurs que le combat électoral dans lequel ils sont généralement moins performants. Et donc effectivement,
hyper intéressant parce que ce que vous dites me fait penser aussi aux gros succès littéraires actuels,
mais qui sont
de Villiers, de Zemmour, des uns des autres chez Fayard. C'est aussi cette guerre culturelle qui se mène par le texte,
qui n'est pas nouvelle. Le plus grand succès de l'édition d'histoire au XXe siècle, c'est l'Histoire de France de Jacques Bainville. Et le deuxième plus grand, je crois que c'est la Révolution française de Pierre Gaxotte, deux membres de l'Action française.
Natacha.
Alors, vous venez de l'expliquer et c'est extrêmement important. Il y a un continuum entre la dimension identitaire actuelle et ce qu'a été la contre-révolution. D'ailleurs, c'est très bien raconté dans le livre, tous ces mouvements contre-révolutionnaires qui naissent en fait dès avant la révolution et qui nourrissent ce refus de l'ensemble du projet républicain et du projet révolutionnaire. Mais il y a une autre dimension de l'extrême droite, qui est celle qu'on voit dans le fascisme, et qui est celle qui est beaucoup plus technophile, beaucoup moins tournée vers la préservation d'un ordre passé. Et peut-être, mais là vous allez me dire ce que vous en pensez, que le lien est dans l'idée d'une hiérarchie et d'un ordre naturel, puisqu'il y a dans la dimension à la fois fasciste et dans la dimension, on va dire, libertarienne, façon Elon Musk, une espèce d'idée de hiérarchie entre les êtres humains, ceux qui sont puissants, ceux qui savent. Et en fait, on n'est absolument pas dans une pensée démocratique et égalitaire, c'est le contraire. Donc il y a ces deux éléments. Comment se coordonnent-ils selon vous? Quel est le lien? Quelles sont les différences? Et si on ajoute la question, il y a un chapitre sur l'émergence de l'antisémitisme à l'extrême droite comme quelque chose de structurant à partir de Drummond. Or, aujourd'hui, le Rassemblement national est au contraire, fait tout pour se montrer profondément judéophile. Donc il y a un renversement. Comment on articule toutes ces dimensions et qu'est-ce qu'elles nous racontent des évolutions? Je pourrais ajouter un dernier point, le rapport à l'Europe, puisqu'il y a toute une part de l'extrême droite qui est clairement européenne à travers le Grèce, toutes les extrêmes droites païennes. Sauf que c'est pas non plus les débats qu'on a pu avoir sur la construction européenne même si ça s'est greffé, mais au départ c'est civilisationnel, c'est-à-dire c'est l'idée d'un Occident dans le choc des civilisations. Comment ça s'articule là aussi avec la dimension de débat sur la construction européenne.
Baptiste Roger-Lacan, et je pense qu'on revient sur la question du temps, en fait.
Alors, complètement. La première, c'est que d'une part, il y a des... L'extrême droite en France, mais partout en Europe, est une famille politique qui est fragmentée, divisée, dans laquelle il y a des tendances qui s'affrontent. C'est un mouvement dans lequel l'unité a rarement été réalisée. En réalité, en France, elle a surtout été réalisée par le Front National et le Rassemblement National. La famille Le Pen a réussi à créer une sorte de logique d'identité entre un nom, un parti et un courant politique. Sur la question du progrès, de la technologie, en fait, ça touche à une autre question qui est celle de la modernité. Et qui est quelque chose qu'on retrouve déjà avec la contre-révolution, c'est-à-dire que la contre-révolution effectivement rejette la modernité rationaliste et la modernité politique qui est issue de la Révolution française. Elle est capable, au nom de son combat contre ces idées, d'utiliser les moyens de la modernité. Par exemple, la presse de masse, dont s'emparent très tôt les catholiques intransigeants pour avancer leur combat dès les années 1840-1850. Cette idée d'user de certains produits de la modernité contre les effets politiques et sociaux de la modernité, c'est quelque chose qu'on a trouvé très fort dans l'entre-deux-guerres, avec quelque chose qu'on a appelé, qu'un historien qui s'appelle Jeffrey Hirth a appelé le modernisme réactionnaire, qui était très présent notamment dans l'Allemagne de Weimar, mais qu'on retrouve aussi en France dans les milieux non-conformistes, qui revient, pour simplifier les choses, à utiliser le progrès technologique pour défoncer le progrès social. L'idée étant que la machine doit permettre de faire réadvenir ce monde hiérarchique, structuré, organisé par des chefs qui existaient avant la rupture de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Et donc, il doit permettre, en gros, pour reprendre une expression qui n'est pas utilisée dans l'entre-deux-guerres, mais qui est une expression qui est celle de la Restauration, de renouer la chaîne des temps. Donc, cet élément-là, on le retrouve. Et effectivement, il a ressurgi, et c'était très impressionnant, au début du mandat de Donald Trump, avec la figure d'Elon Musk et une partie de ses patrons de la tech qui se sont ralliés à Trump. Sur la question de l'antisémitisme, C'est à nouveau, c'est complexe dans la mesure où, à l'heure actuelle, l'électorat du RN continue d'être l'électorat qui défend le plus de stéréotypes antisémites. Ce qui est certain, c'est qu'à la tête du parti, depuis l'arrivée de Marine Le Pen, il y a une politique... Alors, pas tellement de tolérance zéro en interne, parce que je crois, et tout ce que j'entends de sociologues qui ont travaillé là-dessus, dès qu'on est à l'intérieur d'une permanence du RN, c'est reparti, mais une tolérance zéro sur les discours publics antisémites, avec une petite exception pour les amis de Marine Le Pen, type les anciens Gudard, Châtillon, Lousteau, ou sa meilleure amie, dont le nom m'échappe à l'instant, qui avait écrit des textes fous dans présent, il y a encore quelques années, et qu'elle a défendu mordicus. Mais l'idée, globalement, c'est que si vous tenez des propos négationnistes ou antisémites, vous êtes dehors. Le problème, c'est comme le parti, depuis sa fondation, n'arrive pas à se professionnaliser, n'arrive pas à faire émerger suffisamment de cadres pour structurer toutes les fédérations de la même manière, pour avoir des gens qui ont une parole qui est lissée. Bref, comme ce parti n'arrive pas, dans sa structure interne, à ressembler aux autres partis qui organisent le champ politique français, à chaque élection, et notamment à chaque élection où il y a plus d'un candidat, c'est-à-dire pas un candidat issu de la famille Le Pen, on se retrouve avec 10, 20, 30, 40... Alors les gens disent des dérapages, le problème c'est quand il y a des dérapages tous les 3 ou 4 ans, c'est plus des dérapages, ça fait système. Donc on voit quand même que cette question d'antisémitisme n'a pas disparu. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans la stratégie, le RN, depuis que Marine Le Pen s'est préparée à prendre la succession, puis est arrivée à la tête du parti, clairement, a décidé de hiérarchiser les adversaires, et que elle s'est dit que c'était électoralement beaucoup plus... C'était un levier beaucoup plus fort de s'en prendre à l'immigration, et spécifiquement, en fait, à l'immigration musulmane. Gilles.
J'ai posé une question longue, je vais poser donc une question courte.
Oh, il est vexé.
Pas du tout. Vous avez souligné la fragmentation des extrêmes droites nationales. Je voudrais revenir sur la fragmentation des extrêmes droites européennes. C'est frappant de voir qu'au Parlement européen, les extrêmes droites n'ont jamais réussi à constituer un seul groupe. Est-ce qu'il y a des divergences idéologiques entre ces extrêmes droites et quelles sont-elles ?
Baptiste Roger-Lacan.
Alors, il y a, je pense, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a trois groupes. J'en laisse un de côté tout de suite, qui est celui dans lequel siègent Stark Nafo et les eurodéputés allemands de l'AFD, qui est un groupe, donc qui est un ramassis de gens qui n'ont pas été acceptés par les deux autres groupes d'extrême droite, dans lequel on a beaucoup de partis qui font régulièrement des sorties négationnistes, nostalgiques du Troisième Reich, à commencer par l'AFD, où chaque année ils vont plus loin, donc bientôt ils vont expliquer qu'il y a une différence entre les Waffen-SS et les gardiens de camp. Là, en ce moment, je crois qu'ils disent qu'il y a une différence entre les SS et la Wehrmacht, mais donc chaque année, ils poussent plus loin le révisionnisme. Les deux autres partis, donc le parti dans lequel, pour simplifier les choses, on a d'un côté le Rassemblement National et le Fidesz de Viktor Orban, et l'autre ECR, dans lequel on a notamment le Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, se distingue à mon avis sur un point, en tout cas c'est le point de distinction qu'ils mettent en avant, même si en réalité on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de porosité qu'ils ne le disent, c'est un rapport à l'économie. C'est-à-dire que d'un côté, on a des partis d'extrême droite qui restent, en tout cas qui continuent à mettre en avant un discours étatiste et interventionniste, où le parti se présente comme le défenseur des petits menacés par... par en haut, par des élites, mais surtout des élites intellectuelles, et par en dessous, par l'arrivée de populations qui viendraient les remplacer, qui viendraient notamment les remplacer au travail. Et de l'autre côté, un parti qui, lui, a commencé à adopter, enfin, des partis qui ont commencé à adopter, c'est notamment le cas de Fratelli d'Italia, une ligne en matière économique, libérale, conservatrice, plus classique, sans renoncer au discours identitaire. On voit d'ailleurs que Giorgia Meloni, là-dessus, pratique un double discours qui est très impressionnant, c'est-à-dire que ce qu'elle dit en Europe, en gros, ce qu'elle dit en anglais, et ce qu'elle dit en italien n'a pas grand-chose à voir. Et on le voit d'ailleurs depuis 3 mois, ou depuis, à ses partenaires européens, elle continue à dire ce qu'elle dit depuis 3 ans, à se présenter comme une partenaire rassurante. Ce qu'elle l'est d'ailleurs d'un point de vue européen, dans la mesure où elle n'a pas chambardé l'union de l'intérêt, ce qui était la crainte d'une partie des autres dirigeants européens. Mais par contre, à l'intérieur de l'Italie, notamment depuis la mort de Charlie Kirk, on voit un retour de l'offensive de Fratelli d'Italia, notamment contre les médias et contre la justice, qui montre bien que ce parti conserve une partie de son ADN post-fasciste.
Merci.
On est déjà au bout.
Merci.
Il y a encore plein de choses à vous raconter parce que c'est un gros livre et un livre, je crois, important. Cette nouvelle histoire de l'extrême droite que vous avez dirigée, Baptiste Roger Lacan, aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'avoir été notre invité. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Clatte à la préparation de l'émission. Mathias Volante aujourd'hui à la réalisation. Aujourd'hui, Anne-Laure Cochet était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour Mafia, anatomie d'une pieuvre avec Clotilde Champérache, une conversation que vous pouvez elle aussi déjà écouter en podcast sur l'appli Radio France.